RFI et France 24 présentent. Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le Café des Sports hebdomadaire, de nous rejoindre dans ce café, que ce soit à travers les ondes, grâce à vos postes radio, que ce soit aussi en direct pour ceux qui nous suivent en Facebook Live, et puis à tous nos spectateurs, je leur dis bonsoir parce que là, c'est grâce à France 24. Et nos invités du jour, les habitués sont là, bien sûr. Bonjour Rémi Ngono.
Bonjour Annie, un poste. Direction finale.
Oula. ça anticipe déjà sur certains débats, j'ai l'impression, du côté de Rémi. Bonjour Frédéric Suto.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Ça leur plaît ?
Ça leur plaît déjà.
Le tirage de la
Ligue. Ce soir, ça va chauffer, nous dit Ricardo Amorigio, le Facebook Live qui est lancé. On est déjà là, bonne émission, c'est Chérubin qui nous envoie ce petit message. Salut le Barça, ça c'est Diop Thierry. Bon, il y en a pour tout le monde.
Bon, bah alors ça ira très bien. Il y en a aussi pour vous. Bonjour Xavier Barret.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Oui, je crois qu'on a quelques sujets de discussion.
Je crois que ça va être assez animé aujourd'hui. Et puis quand même quelqu'un pour calmer un peu les animosités, si tant est qu'il y en ait.
Je vais essayer, mais ça va être dur quand même. Entre les deux, c'est toujours
bonjour
compliqué.
Eric Ravet-Sandra.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Tout va bien ?
Tout va bien.
Ouais.
Ouais.
Avec vous, tout va toujours bien. N'est-ce pas ? Alors, dans les débats du jour, évidemment, les tirages au sort européens. La Ligue des Champions et des affiches de quart de finale. Très, très, très attractif. Avec un air de finale pour la rencontre Real Madrid-Manchester City. Une confrontation tout feu tout flamme entre rouges, entre Gunners et Bavarois du Bayern, bien sûr. Une chance à saisir pour l'Atlético ou le Borussia Dortmund. Et puis des retrouvailles qu'on peut dire amusantes. Hein, Eric Allais, amusantes.
Pour l'instant, elles sont amusantes.
Entre le PSG et le Barça. À la loupe, donc, ces quatre matchs entre des clubs déjà tous finalistes de la Ligue des Champions et qui sont programmés pour le début du mois d'avril. Une Ligue Europa, la petite Ligue des Champions, et elle a un air de Ligue des Champions quand on voit qu'il y a Liverpool, le Milan AC, la Roma ou encore le Benfica. Et justement, nous aurons Benfica au M. Les Marseillais peuvent-ils rêver après leur difficile qualification hier contre Villarreal ? Évidemment, nous en parlerons, nous aurons aussi les cartons, les vôtres et les nôtres. Et au générique de cette émission, David Finzel et Pierre Guérin m'ont aidé à préparer l'émission. Mathieu De Gueldre est à la réalisation. Swell Kedir et Robin Cusneau sont là pour les moyens vidéo de France 24. Le Café des Sports, les débats sont ouverts.
Arsenal, FC Bayern Munich, Club Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, FC Barcelone.
Et oui, le sort en est jeté. Et même si ces grands clubs se retrouvent régulièrement entre eux, les confrontations dues au hasard, en tout cas, donnent déjà envie d'y être et d'y assister à tous ces matchs. Et l'on commence tout de suite par ce match qui aurait pu être une finale, même s'il n'y a encore jamais eu de finale entre ces deux équipes au niveau de la Ligue des Champions. Mais c'est quand même le tenant du titre contre celui qui détient le record de titres dans la compétition. Évidemment, je parle des Merengues du Real Madrid et des Blue Sky de Manchester City. Rémi, êtes-vous inquiet ?
Si je suis inquiet... Cela veut dire que Dieu lui-même est inquiet au ciel. Parce que, pour l'instant, il n'y a qu'un seul Dieu en Ligue des Champions.
C'est le vainqueur.
C'est le vainqueur, c'est le Real Madrid, avec 14 trophées. Et quand vous additionnez tout le reste là, vous les additionnez, ça fait 13, Ligue des Champions. Donc le Real va, avec toujours cette ambition, d'aller reprendre une autre Ligue des Champions. Comment serait-on inquiet devant quelqu'un d'autre qui rêve de deux Ligues des Champions? Pour l'instant, c'est comme le lièvre qui poursuit le chien.
Qui leur a mis 4-0 la saison dernière en demi-finale. Mm-hmm. Il faut le rappeler quand même, Annie.
Oui, oui.
Et d'où toutes les magouilles qu'il y a actuellement en coulisses, parce qu'on ne connaît pas l'ordre des matchs. Et c'est ça qui est déterminant. On voit bien que quand le match retour est à Madrid, on ne peut pas gagner. Quand le match retour est à l'extérieur, on peut se qualifier. C'est ce qui s'est passé la saison dernière.
Mais le tirage au sort a donné
la seule chose, c'est que vous avez les droits télé qui jouent, qui rentrent en ligne de compte. Or, les plus gros payeurs pour l'Europe, c'est l'Allemagne et l'Angleterre. Or, les Anglais ont deux clubs, les Allemands ont deux clubs. Donc, ils veulent chacun une soirée avec l'un Dortmund, l'autre le Bayern, l'un Manchester City, l'autre l'Arsenal. Et il y a un autre règlement qui dit qu'on ne peut pas avoir deux matchs dans une même ville le même soir. Or, il y a deux clubs de Madrid qui reçoivent. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? Le Real Madrid est en train de tout obtenir pour obtenir l'inversion des matchs. C'est-à-dire que l'Atlético jouerait le match aller contre Dortmund à Madrid, et que le Real, puisqu'on ne pourrait pas jouer le match aller à Madrid, irait jouer le match aller à Manchester City, et le retour serait donc à Madrid, avec l'avantage du terrain et tout ce qui va avec qu'on leur connaît. Donc on sera fixé demain, parce que normalement l'UEFA communique l'ordre des matchs demain. Mais pour le moment, je peux vous dire qu'en coulisses, il s'en passe de belles.
On ne peut pas mettre ça sous l'angle.
Mais les statistiques sont là. Quand le Real Madrid joue le match retour à domicile, il gagne.
Xavier, il y a trop de sous-entendus.
Mais non, il n'y a pas de sous-entendus. C'est statistique. Quand le Real Madrid joue le match retour à domicile, il gagne, sauf contre l'Ajax il y a quelques années. Quand il joue à l'extérieur, l'an dernier, ils se prennent 4-0 à Manchester. Donc tu comprends que Manchester n'a aucune envie de se retrouver comme il y a deux ans avec le match retour à Madrid, quand on sait ce qui s'y passe. Donc ils veulent absolument garder cet ordre de distribution. Le seul problème, c'est qu'il y a...
Qu'est-ce qui départage
l'UEFA. C'est l'UEFA qui va devoir trancher.
Monsieur Seferin.
C'est-à-dire les dirigeants de l'UEFA. Absolument.
S'il te plaît. Xavier.
Donc voilà l'enjeu actuellement de ce qui se passe à Lyon.
Xavier. Xavier est d'une malhonnêteté.
Non,
parfois,
Rémi, faut savoir dépasser de temps en temps.
Je me demande si c'est
dans
la moelle épinière.
Il faut savoir.
Voici quelqu'un qui vous dit.
Il faut savoir de temps en temps dépasser.
Dépasser l'émission seule.
Le côté.
L'émission seule.
Non mais justement, j'expliquais les enjeux.
Ah mais si tu es clinique d'expliquer, toi-même tu ne comprends pas, laisse que les élèves t'expliquent.
Ah bah je suis bien curieux de savoir ce que tu vas nous expliquer.
Qui est en train de dire aux téléspectateurs qui viennent de suivre la qualification du Real que quand le Real joue à l'extérieur, le Real à la maison sait très bien qu'il va se qualifier parce qu'il va gagner à la maison. Ouais. Sauf que Leipzig, que le Real... vient justement d'éliminer.
Rémi.
Le match, c'était... Attends, Manu, c'est clair d'abord que c'était d'abord à Leipzig que Real est parti gagner. Et au Camp Nou, le Real n'a pas gagné. Donc, ton théorème est déjà faux.
Au Camp Nou, il ne joue pas au Camp Nou.
Voilà,
au Santiago
Bernabéu. Parce que le Camp Nou n'existe plus. Maintenant, je te dis qu'en 2019, au Camp Nou, on a vu le même phénomène avec le Barça. Bon. C'est inversé, c'est-à-dire que c'est des règles de l'UEFA. Ce n'est pas quelque chose que le Real est en train d'inventer. Le Barça en a bénéficié comme le Barça a bénéficié justement du fait qu'on ne siffle pas le pénalty contre lui.
Pour le moment,
Rémi,
ce qu'on a vu...
on ne le sait pas pour l'instant. L'ordre des matchs n'a donc pas été donné, mais on a des statistiques quand même pour vous et je vais vous les donner. C'est la quatrième fois en 5 saisons que ces deux équipes vont se retrouver pour ce qui est de la phase éliminatoire. Et pour l'instant, il y a 2 victoires pour City sur 3 matchs en 8e de finale et 1 victoire en demi-finale de City. Est-ce que vous êtes inquiet pour ce Real qu'on n'a pas vu très, très offensif, ou lors de la qualification là, du match retour, on était moyennement convaincus.
Je vais vous dire...
Il y avait des blessés, il y avait tout ce que vous voulez, je sais.
Il est trop sûr de lui. Trop sûr de toi.
Je veux vous dire une chose. J'ai l'impression que vous également, vous ne regardez pas ce qui est en train de se passer, parce que même ce Real qui sort n'a pas été champion en Liga. Or, le Real de maintenant, ce que vous oubliez, c'est que ce Real aujourd'hui...
n'est pas celui dans un mois.
Ne sera pas celui dans un mois, parce que déjà, le Real est privé de son meilleur gardien, le Real est privé de toute sa défense, et d'ailleurs, je crois que quand...
C'est pour ça que je vous posais la question, Rémi.
Et même quand City avait gagné...
Je me faisais l'avocate du diable.
Et même quand City avait gagné... contre le Real, ce Real-là avait des problèmes défensifs, puisque d'ailleurs c'est Camavinga qui s'est retrouvé devant Bernardo Silva, ce qui a été un véritable calvaire, et d'où les 2 buts encaissés par le Real qui ont totalement déstabilisé le match. Donc, aujourd'hui, nous croyons que le Real encaisse moins de buts, et que le Real est capable de pouvoir rééditer ce qu'il avait déjà fait, à savoir les 3-1.
Éric Rabessandratana, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette affiche? Hier, on en parlait dans Radio Foot, on disait « Oh là là, si le tirage au sort donnait ces deux équipes l'une contre l'autre, ça serait presque dommage. » En tout cas, c'est le cas. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça va être un match difficile parce qu'on est obligé de respecter ce Real avec son parcours en Ligue des Champions. On est obligé de le respecter. Après,
avec Carlo Ancelotti, quand même.
Oui, mais il y a quand même un état de forme. Alors, on sait qu'on est, ça va pas jouer dans une semaine et deux semaines, ça va jouer un petit peu plus. Donc,
début avril.
Donc, ça veut dire qu'on n'a pas la certitude que ce Real sera encore un peu moins séduisant que ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je suis désolé, ils ne m'ont pas convaincu. Leipzig doit passer à tous les jours. Alors, oui, il y a cette expérience et il y a aussi cette efficacité parce que à l'arrivée, on regarde, le Real a été efficace, même si c'est entaché des questions qu'on peut se poser et c'est souvent le cas, mais il n'empêche que le Real a été efficace et Leipzig pas. Donc, c'est toujours la réponse que donne le Real en Ligue des Champions. Donc, on est obligé de rester prudent par rapport à ça, mais là, c'est Manchester City en face et ça va être quand même très, très difficile pour le Real.
Xavier, on se dit, aller-retour, quel que soit le match, l'ordre des matchs.
Non, c'est pas ce que je dis, mais effectivement. Mais alors, je pense que Manchester City reste favori, c'est les tenants du titre. Et puis le Real, ce qu'ils nous ont montré contre Leipzig, il ne devrait pas être là, comme le disait Eric Rabessandratana. Donc voilà, la logique veut que le Manchester City soit au-dessus. Mais le Real, compte tenu de tout ce qui se passe autour de ce club, on ne peut pas dire que c'est déjà gagné.
Il y a des joueurs et d'entraîneurs quand même aussi, on peut en parler.
Oui, mais
il y a des joueurs de qualité. Il y a Vinicius, il y a Rodri, il y a Bellingham.
Je rejoins Rémy Ngono sur le fait qu'il y a beaucoup de blessés, notamment derrière.
Mais on a toujours Modric qui quand même fait basculer un match.
Oui,
on a
mais sur le plan du jeu, Manchester City est plus cohérent, plus constant dans ses performances.
Oui, mais il y a des fois des petits coups de folie de
côté de Pep
Guardiola.
Ouais, mais il y a un caractère offensif des deux équipes qui fait que le côté défensif du Real va quand même, ça va poser question.
Frédéric, ça
n'enflamme pas que le plateau, ce Real, Manchester City, Kiss-Kiss-Umbu, il est à Goma. Dites à Xavier que le Real Madrid est chez lui dans tous les stades d'Europe.
C'est pas faux. Ils ont pris 4-0 à Manchester,
Olivier,
on rappelle la saison dernière.
Il faut s'attendre à voir Rémy nous sortir des arguments de l'époque médiévale pour annoncer le sacre de son club chéri, Michel Jenguier. Rémy dans la sauce, un verre d'eau fraîche pour Rémy. C'est Dingao qui nous dit ça. Bon. En tout cas, ça les passionne aussi. Ouais. Mais ces questions d'arbitrage qu'on favoriserait le Real, ça plaît pas à tout le monde.
Et non le Barça.
Et le Barça aussi, on va
en parler maintenant.
On va en parler. Non, on ne va pas en parler maintenant. Ah bon ? Maintenant, on va parler de deux autres équipes qui jouent en rouge et qui nous paraissaient très intéressantes. Arsenal, Bayern Munich. Alors, c'est ce que je disais, en commun, un maillot rouge, mais pour le reste. Ces deux clubs qui ont peut-être des motivations en ce moment un petit peu différentes. Il y en a un, alors on verra dans 3 semaines s'ils sont toujours les joueurs de Arteta premier. De Première Ligue, est-ce que ça pourrait peser? Est-ce qu'il pourrait y avoir un choix à faire? De l'autre côté, le Bayern, plus ou moins, a fait un choix. C'est celui de la scène européenne plus que la scène nationale où ils sont un peu largués au nombre de points. En tout cas, dans le passé, le Bayern a déjà éliminé 2 fois les Gunners et c'était en 8e de finale de Ligue des Champions. Et on va écouter quelqu'un qui aime bien comme ça, un petit peu pimenter la rencontre avant. Et il le dit toujours sur les réseaux sociaux, c'est l'infatigable et l'éternel Thomas Müller.
And it's Arsenal. Kai Havertz, my friend, I am waiting for you.
Il est coquin. On se souvient
du
message.
Oui, mais il est prudent. Avant, il s'emballait un peu. Et là, aujourd'hui, il est quand même respectueux. Il se dit, bon, je t'attends, mon ami, mais voilà, on va voir.
La fois où il a parlé du Paris Saint-Germain tout à l'heure et tout, on en a beaucoup parlé. Xavier, Arsenal, Bayern Munich. Alors, avec ce petit saupoudrage, effectivement, Kai Havertz.
Oui, mais surtout un élément nouveau du côté du Bayern, c'est Harry Kane. le symbole de Tottenham, le club ennemi juré des Gunners d'Arsenal, qui va être dans le camp d'en face. Donc ça va renforcer encore plus cet antagonisme entre les deux clubs. Et pour le moment, au niveau des statistiques, le Bayern est largement devant. Hein. 7 victoires, 2 nuls et seulement 3 succès pour Arsenal sur les confrontations qu'il y a eu entre les deux clubs.
Et maintenant, puis Arsenal est un peu de retour à ce niveau de la compétition. On l'a dit au cours de la semaine, ça faisait 14 ans qu'ils n'étaient pas là. Ils ont encore pas mal de jeunes.
Oui, mais ils ont montré contre Porto quand même suffisamment de détermination pour passer et c'était pas facile parce que Porto ça reste une très bonne équipe. Donc face à un Bayern qui est un petit peu moins bien que d'habitude, je pense qu'il y a match là aussi et que Arsenal, même s'ils veulent bien sûr gagner le titre de champion, c'est un des rares grands clubs européens qui n'a jamais été champion d'Europe. Ils ont été en finale mais ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions.
2006. Hein.
Voilà, donc s'ils peuvent aller plus loin dans la compétition, ils ne vont pas se gêner non plus.
Eric, c'est vrai qu'on dit que cette équipe aussi actuellement, pour l'instant, au bénéfice d'un match nul entre ces deux poursuivants que sont Liverpool et City, ils sont devant en championnat. Est-ce qu'on peut se dire, si vraiment ils fortifient leur place, ils vont choisir le championnat, ils oublieraient un peu la Ligue des Champions, ou c'est impossible quand on est des professionnels à ce niveau?
Ouais, ça me paraît compliqué, même si...
ça joue dans la tête d'un joueur.
Évidemment, il y a un paramètre dont on n'a pas parlé, c'est que la finale se joue à Wembley. Et donc, en tant qu'Anglais, je pense que tu as quand même envie d'arriver jusqu'au bout, même si tu as envie de privilégier le championnat, que ce soit pour Manchester City ou pour Arsenal. Tu te dis quand même que... Bon,
donc, vous nous prédisez une finale
donc
anglaise.
Donc, je me dis que... Non, mais je me dis surtout que... Non, c'est pas possible.
Ce sera pas possible.
Ce sera pas possible parce qu'ils vont s'affronter avant, mais... je me dis que il y a ce paramètre-là qui fait que on va jouer tous les matchs à fond et on va essayer de vivre ce moment à Wembley. Donc il y aura pas de on fait pas l'impasse sur l'un ou l'autre. On va jouer tout à fond et puis c'est quand même passionnant.
Rémi, est-ce qu'on risque d'avoir quand même une équipe du Bayern qui revient de très loin avec Tuchel qui a quand même la science de remporter une Ligue des Champions? Il l'a fait avec Chelsea il y a pas si longtemps et une équipe finalement qui peut-être veut se faire pardonner ses errements en Bundesliga.
D'abord, se pardonner des errements, je ne pense pas parce que il faut savoir que le championnat de Bundesliga est très, très fort. Et ça, les gens ne considèrent pas ça comme ça. Parce que d'ailleurs, j'ai vu des gens...
Ils sont 10 points derrière le Bayern.
Mais les deux championnats, parce que
je dois dire quand même qu'il faut savoir que là, Leverkusen, aujourd'hui, nous montre que c'est une équipe qui a battu tous les records, 37 matchs sans défaite. Et même, nous avons encore vu ce qu'ils ont réalisé avec mener 2-0 et puis 3-2. Donc, Leverkusen est fort. Maintenant, on parle par exemple de Real qui a souffert devant Leipzig. Leipzig a battu ce Bayern-là. Mais j'ai regardé le match. J'ai re-regardé le match et j'ai vu que le Bayern avait quand même des opportunités et que c'était une contre-performance. Mais bon, aujourd'hui, quand j'essaie de regarder...
Lazio, ils ont été cliniques.
Mais
hein.
Quand j'essaie de regarder... Oui, vous allez me dire Arsenal. Mais comment est-ce que Arsenal est passé? C'est vraiment par un petit tour de souris. Mais quand vous regardez le Bayern en Ligue des Champions, c'est une équipe qui convainc. Et même dans le passé, vous allez toujours voir, il y a eu 5-1 pour Bayern, 5-1 pour Bayern, 5-1 pour Bayern. Ça fait 15 buts à 3 pour Bayern Munich. Pour moi, ce Bayern qu'on croit mort. Quand vous regardez, ce n'est pas seulement Harry Kane. Vous avez des dribbleurs au niveau des côtés. C'est-à-dire que vous avez aussi Moussiala, qui est très, très, très en forme actuellement. Attention, le Bayern n'est pas mort. Il y a un proverbe africain qui dit « Méfie-toi d'un chien qui bouge la queue devant un lion qui est en agonie. »
Alors, je ne sais pas si le chien, c'est Thomas Tuchel. Vous parliez de son expérience. Giambassa nous dit « Tuchel joue sa saison ». C'est vrai que là, bon, il a regagné quelques matchs. Ils sont qualifiés pour les quarts.
En même temps, il a dit qu'il partait. Hein,
mais bon, il y a encore un mois, il était sur la sellette. Robson Dessouza, le Bayern marchera sur les Gunners. Il n'y aura pas de match. Le Bayern en finale, c'est ce que nous prédit Mamadi.
Eric, encore un tout petit mot parce qu'on a encore plein de matchs.
Le Bayern sur ce match est quand même favori, je suis désolé, en termes d'expérience, en termes de même si...
Ça dépendra de
ce match. Arsenal avec 52%.
Ouais, mais bon, en termes de statistiques, je trouve que le Bayern a plus rien à jouer en championnat, avec 10 points de retard, a plus rien à jouer en championnat. Donc, il va quand même se concentrer sur la Ligue des Champions, j'imagine.
Et en termes d'expérience. Bon. On verra en tout cas ce que feront ces hommes de Tuchel et les hommes de Mikel Arteta. Alors ceux qui avaient rêvé de rencontrer les deux adversaires dont je vais vous parler, vus peut-être comme, on dirait, outsiders, Atlético Madrid et Borussia Dortmund se retrouvent donc face à face. Elles se sont sauvées un peu des huitièmes de finale difficilement. Du coup, ben, c'est à chacun sa chance. Eric, est-ce que là, c'est un peu du 50-50 ?
Bah non, je pense que l'Atlético a quand même aussi... c'est pareil, en termes d'expérience. Alors oui, Dortmund est quand même une équipe qui est là.
Ils ont tous fait des finales. Hein. Ouais, ils sont tous arrivés en finale.
J'ai envie de dire, avec la performance d'Atlético contre l'Inter, parce que franchement, je voyais vraiment l'Inter passer. Et alors même si c'est au pénalty, il y a quand même une performance réalisée. Ce match à l'Inter où l'Atlético se fait manger dans tous les sens, mais repart quand même. Je me dis que... cette équipe, elle est tellement imprévisible que alors là, en plus, c'est Dortmund, c'est quand même moins dur que l'Inter au départ.
Xavier, on compare un peu les équipes de Simeone, un genre de boa hein, qui prend sa proie et qui peu à peu serre pour finalement l'étouffer.
Il n'est pas là pour perdre, en tout cas, c'est sûr.
Ah non, on le connaît. Mais il a déjà été éliminé quand même. Donc, Xavier, vous aussi, vous seriez un peu du côté des matelassiers, là ?
Ouais, je pense que l'Atlético...
C'est quoi, Griezmann
Alors, ils sont très dépendants de Griezmann quand même, parce que dès qu'il n'est pas là... les résultats plongent.
Ouais.
Maintenant, il y a cette détermination, cet état d'esprit incroyable, cette grinta, cette combativité transmise par El Cholo. On l'a encore vu contre l'Inter. Hein. Ils sont menés, ils sont dominés et puis ils vont chercher cette qualification, enfin cette prolongation, ces tirs au but. C'est une équipe qui a une vraie âme. Et je pense que dans une... Oui, il y a du banc, effectivement. Et je pense que face à un Dortmund qui est une belle équipe avec de beaux joueurs, mais malgré le soutien des 80 000 supporters du Signal Iduna Park, je pense que match retour à Dortmund, c'est vrai. Mais je pense que l'Atlético a un supplément d'âme par rapport à Dortmund.
Et Dortmund qui prend beaucoup de buts. Hein. C'est Archeduc qui nous rappelle ça. L'Atlético s'est verrouillé plus que Dortmund quand il faut.
Un peu plus, disons.
Exactement.
Ouais. Rémi, sur cette rencontre avant qu'on passe au dessert, là.
De toutes les façons, l'Atlético, ça ne dépend pas de Griezmann. Ce n'est pas Griezmann qui fait gagner hier, même s'il a marqué un but et très optimiste. Mais attendez, c'est l'entrée de Memphis Depay.
Oui, c'est vrai.
C'est lui qui a, détruit pratiquement l'équipe d'Inter.
C'est lui.
C'est-à-dire qu'à une certaine période, ce que j'ai souvent reproché à El Cholo, c'est de bloquer des gars derrière. Mais curieusement... hier, il a plutôt lancé les gens vers l'offensive tous azimuts. Et du coup, Inter ne s'attendait pas à cette tactique-là. Ça fait de telle sorte que, dans les dernières minutes, c'était insupportable pour l'Inter, qui d'ailleurs, pour aller sur...
ils ont raté beaucoup de choses aussi, hein.
Ah oui.
Y compris des pénaltys.
Oui,
et
c'est
surtout,
ça.
Surtout au match aller.
Surtout au match aller. Surtout au match aller, c'est là où ils ont raté pratiquement de se mettre à l'abri. Ils ont raté de se mettre à l'abri. Et aussi, même hier, ils ont eu d'autres opportunités. Moi, je crois que cet Atlético, c'est une équipe qui, parfois, quand vous dites qu'elle peut déjà donner de bonnes prestations, et puis ça retombe directement comme ça, comme une courbe de température. Moi, je crois que l'équipe de Dortmund a des possibilités de déranger Atlético. Moi, je vais voir ce match-là. Je ne donne pas Atlético vainqueur.
C'est peut-être celui où il y a favori.
Des incertitudes. Pardon.
Ouais, c'est pour ça que ces quatre matchs, finalement, nous donnaient un peu envie d'être déjà plus avancés dans la saison. Et puis alors, Eric,
la cerise sur le gâteau.
Le petit dessert, je l'ai gardé pour vous. Un PSG. FC Barcelone, les meilleurs adversaires d'Europe. C'est devenu le classico européen, puisque d'ailleurs le classico avait presque un peu perdu de son parfum au niveau de l'Espagne. C'est la 14e fois que ces deux équipes vont se retrouver face à face.
Avec une petite trêve entre-temps, et puis là on les retrouve. Bon, on s'est dit ça faisait longtemps. Allez.
Un fantôme gros comme un éléphant quand même. 2017. Même là, certaines équipes, notamment en Espagne, on se dit est-ce que Villarreal va faire une remontada ? Ça a contagié toutes les équipes européennes.
Mais entre-temps, le PSG a éliminé Barcelone quand même. Parce qu'on parle toujours de la remontada, il y a eu 2021.
Oui, avec un triplé de notre équipe nationale.
Au Camp Nou,
Effectivement. Là, il y a peut-être un atout pour le PSG, c'est que Luis Enrique, il n'est plus sur le banc d'en face, il est sur le banc du PSG.
Ouais, ça peut être un atout. Il connaît très bien Xavi aussi, Dembélé aussi est dans les rangs du Paris Saint-Germain. Donc, ça penche un petit peu sur le Paris Saint-Germain parce que forcément aussi le Barça est peut-être un peu moins transcendant que ses belles années, mais Je connais trop bien mon Paris Saint-Germain pour ne pas m'emballer et me dire que... Alors oui, il y a forcément des atouts et beaucoup d'atouts du côté Paris Saint-Germain, mais il y a aussi des trous d'air de temps en temps dans les matchs. Donc,
c'est des fantômes dans les têtes, ça.
Je ne sais pas si c'est des fantômes, mais il n'y a pas autant de régularité qu'on pourrait l'espérer. Alors oui, c'est le Barça, il est prenable. Là-dessus, on est d'accord. Mais voilà, c'est
clairement, le PSG est favori cette fois-ci. C'est la première fois, je pense, que dans toutes ces confrontations, que le PSG est favori.
Oui, franchement, sur le...
On est d'accord. Le PSG est favori. Donc, si le PSG ne se qualifie pas, ce sera une contre-performance du PSG. Parce qu'on voit que ce Barça-là, même champion d'Espagne, c'est une équipe qui est en totale reconstruction. Il n'y a pas d'équipe type, en fait. Il y a eu beaucoup de blessés, donc ça change tout le temps. Xavi n'a pas trouvé son équipe type. D'ailleurs, il va s'en aller.
Non, mais il fait des belles découvertes.
Non, mais on l'avait dit dans cette émission, Annie, dans votre émission, on avait dit que le Barça serait sauvé par la Masia, par les jeunes.
Et là, quand il les met pour se qualifier, ils répondent présent.
Ça marche, mais ils sont encore un peu tendre. Et puis à côté d'eux, il y a quelques vieux qui ont un peu de mal maintenant. Et il manque les joueurs de milieu de génération qui seraient là pour tenir l'équipe. Ils n'en ont pas. Donc ça reste une équipe qui réussit des performances intéressantes. Mais le PSG est clairement favori.
Alors le PSG est favori, mais en tout cas, le FC Barcelone s'est quand même amusé à rappeler des souvenirs. Regardez, alors pour ceux qui nous regardent, derrière, il y a un petit tweet là, écrit en anglais, Remember This. Donc est-ce que vous vous souvenez? Et là, on a Messi et Neymar, qui après sont passés par le Paris Saint-Germain sans faire la même chose. Et c'était les grands acteurs de cette fameuse remontada de 2017. Rémi ?
J'étais en train de recevoir la prophétie. Le 29 décembre 2023, voilà ça. Ah, caméra, regardez bien.
Alors,
faites le zoom.
Dites-nous cette prophétie.
C'est l'évangéliste international, prophète Féa Benedieu, de la maison chrétienne charismatique de la seconde gloire. Il fait la prophétie le 29 décembre 2023. L'équipe du FC Barcelone remportera la Ligue des Champions 2023-2024. Alors là, lorsque j'ai vu ça, j'ai commencé à avoir des doutes. Trembler la France, parce que là, Dieu a dit, écrit au ciel que c'est le FC Barcelone, sauf que sur terre. Pour l'instant, là, le Barça à terre. 34 buts encaissés seulement.
Mais Rémi, vous vous en remettez aux dieux pour prédire un favoritisme ou une victoire.
Ça veut dire que le Real ne va pas gagner. Donc.
Franchement, s'il faut revenir sur terre avec cette équipe-là qui, sur le plan offensif,
non, mais Rémi,
ne convainc
vous l'avez
pas.
Bien observé, ce FC Barcelone. Il est quand même fragile, justement.
Mais c'est ça que je dis.
Xavi aussi va partir.
J'ai dit que c'est une équipe très fragile. Déjà, comme j'ai dit, c'est une équipe...
Pendant
qu'on dit, que le Real encaisse des buts de L'Oréal, c'est l'une des meilleures défenses d'Europe avec 18 buts seulement encaissés. Et puis, le FC Barcelone, c'est 34 buts encaissés. Donc aujourd'hui, quand je vois cette équipe du FC Barcelone...
Kylian Mbappé va se faire un plaisir d'augmenter ses statistiques.
Oui, il peut, mais en même temps... Le PSG n'attaque pas beaucoup. Ne croyons pas que le PSG est si offensif. C'est 54 buts seulement. Et puis il y a 6 nuls.
Mais confisque le ballon. Là, on va avoir un profil de jeu totalement différent.
Et puis, il faut savoir qu'au match, aller déjà, Mbappé ne sera pas nourri par celui-là avec qui il s'entend le plus. C'est-à-dire que Hakimi est suspendu. Donc, et pour ça que je dis que ce Barça avec le Paris Saint-Germain, bon, bien évidemment, le Paris Saint-Germain est bien parti parce qu'aujourd'hui, le FC Barcelone, ça reste un nom, mais ce n'est plus un grand de l'Europe. Oui. Ça, c'est clair. Le FC Barcelone, je peux le comparer à quoi? C'est comme le feu. Et il y a le proverbe africain dit, le feu, c'est la flamme, la fumée, ensuite les cendres.
Il faut peut-être du bois aussi.
Frédéric, peut-on prédire encore un triplé de Kylian Mbappé dans une des deux rencontres?
Ah bah si, il y a du champ devant lui, que les espaces s'ouvrent. Non, mais c'est vrai que moi j'avais eu la chance de le commenter ce match au Camp Nou, ça avait été un festival. Ils avaient gagné 4-1, le triplé de Mbappé, et à chaque fois qu'il touchait le ballon, c'était vraiment les plus belles fulgurances de Kylian Mbappé, qui ce soir-là était en jambes comme jamais. On sait qu'il va partir à la fin de la saison.
Il va se préparer pour les futurs classicos,
il lui en reste pas tant que ça des matchs, et ceux qui restent, c'est ceux qui comptent, c'est ceux de la Ligue des Champions. Ce sera sûrement du grand Kylian Mbappé.
En général, il joue
avec
il joue
du grand Dembélé de retour. et oui, rappelez-vous que les joueurs qui partent du Barça viennent souvent battre le Barça. Vous vous souvenez par exemple
du PSG,
de...
pas toujours, le PSG
pas
aussi.
Toujours.
Hein
Neymar, ça n'avait pas
ceux
marché.
Part, Eric,
ce qui va être intéressant, c'est
ceux
de voir
qui partent du PSG battent souvent le PSG.
Vous vous souvenez du 8-2 ? Vous connaissez qui avait marqué non, pour Liverpool les deux buts ?
Bah oui.
Bon, ok.
Ouais. Non, mais ça va être intéressant. Cette opposition va être intéressante. Enrique de retour au... Alors, pas au Camp Nou. Ça sera pas au Camp Nou.
Non, non,
ça va être un stade olympique.
En plus de deux personnages qui se connaissent très bien.
C'est pour ça, ils se connaissent par cœur. Donc, ça va être intéressant de voir.
Frédéric, ça fait saliver cette rencontre où des gens sont un peu moqueurs.
Oui, Joël, le Barça va souffrir, ça va jouer sur des détails. Attention à l'ogre Barça, nous dit Mike. Des messages un peu partout, encore un. Le PSG va éliminer le Barça, mais il n'ira pas en finale. C'est Prodra Matondo qui nous dit
mais
ça.
Mais attention, De Jong va revenir. Gundogan est en forme et Lopez n'est pas aussi un milieu de terrain aussi conquérant
comme moi. Je suis d'accord avec toi.
Rémi, il y a trois semaines, il y a des journées de championnat, effectivement, il peut se passer plein de choses. Eric, pour terminer, on s'est souvenu de faits exceptionnels entre ces deux équipes et il y a eu un match que vous aviez regardé à la télé encore à l'époque, c'était en 1995 entre le PSG de Luis Fernandez
et de Deniso
et de Cruyff en face.
Et de Cruyff en face et
c'était la première fois que le PSG réussissait à arriver en demi-finale.
Il y avait 11 parisiens, mais quelle équipe quoi.
Je vous le donne, il y avait Ginola, Raï, Wea, Valdo, Bravo, Guérin, Colter, Cobos, Le Guen, Comboiré et Bernard Lama dans les buts.
Ah oui, deux.
Et pas encore Eric.
C'est surtout que...
Et Ricardo Eroche était blessé ou suspendu, je ne sais plus.
Non, à l'époque, il y avait surtout un vrai complexe de contre ces équipes, entre le Real et le Barça, qui étaient des ogres pour les équipes françaises.
Déjà.
Et ce Paris Saint-Germain n'avait pas vraiment ce complexe et jouait toujours... il était intéressant. Et en plus, il y avait des joueurs incroyables et qui étaient capables de faire la différence. Et ça s'est vérifié. Et on a réussi à éliminer.
Bah,
et c'était une vraie désillusion. Je pense que dans son ego, il avait été très vexé de se faire éliminer comme ça.
En face, il y avait Koeman, Hadji, Stoïkov, Eusebio, Busquets. Un autre temps. Allez, on continue parce que la petite Ligue européenne, la Ligue Europa, elle aussi, elle a des airs de Ligue des Champions. Finalement, quand dans un tirage au sort, vous avez Liverpool, le Milan AC ou encore West Ham. Et puis l'OM qui s'est qualifié hier, même dans la douleur. Des commentaires et des images surgies du passé de nos mémoires et aussi surgies sur les réseaux sociaux, bien sûr, où c'est toujours facile. Alors, pour ceux qui ne nous regardent pas, on avait des images de ce fameux but d'un certain Vata. Donc, c'était un soir de 1990, une demi-finale de Ligue des Champions à l'Estadio da Luz. C'était le grand stade du Benfica à Lisbonne. C'était l'OM de Bernard Tapie, éliminé donc à cause de ce but portugais. Xavier, c'était non seulement un but inscrit par les Portugais, mais c'est un but qui était entaché d'une faute.
C'est inscrit de la main, surtout.
Maintenant, on a la VAR. Là, on ne l'avait pas.
Oui, le but était particulier. Le but était effectivement marqué de la main par l'Angolais Vata.
De l'avant-bras,
Vata,
on croit
Vata,
voir.
Ça a été un drame national. Hein,
oui,
je
ça avait fait une polémique pendant plusieurs jours. Bernard Tapie avait déclaré à cette occasion « Maintenant, je sais comment gagner une Coupe d'Europe ».
Regardez, le Provençal de l'époque, on voit la une derrière nous. L'OM a été volé, cruelle déception.
Absolument. L'OM avait été très bon à l'aller. Ils avaient gagné que 2-1 et ils auraient dû marquer plus
grand
de buts.
OM aussi.
Et au retour, ils se font éliminer sur ce but de la main de Vata à quelques minutes de la fin du match. Et effectivement, derrière, il y a toute cette polémique. Il y a l'arbitre belge qui est mort depuis, monsieur Van Langenhoff, un nom compliqué à prononcer, qui s'était retrouvé au centre de la polémique. C'était quelqu'un, je crois, qui était charcutier traiteur.
On l'avait accusé d'être corrompu. De corruption.
Enfin, il y avait juste, quoi.
Alors, notre ami Nicolas Villas sur les réseaux sociaux tout à l'heure a repris une partie de cette interview et c'est intéressant parce que le pauvre dit mais à la vitesse où ça allait je n'ai pas vu. On lui demande si c'est une erreur, il dit c'est pas une erreur, c'est de la malchance et il dit j'ai traîné ça tout le temps quoi, à chaque fois que je voyais ces deux équipes jouer, bon. Eric, vous y croyez pas?
Non, bah après,
il a été corrompu?
Non, après, je sais pas s'il était corrompu parce que je suis pas sûr que Benfica faisait partie des équipes qui corrompaient les... Donc non, je ne sais pas. Non, après, il peut être masqué. Il n'y avait pas la VAR, donc c'est compliqué
Donc vous l'excusez. Non, bon, allez.
Non, mais je comprends la frustration, évidemment. Tu perds
Xavier,
sur un match, sur un but comme ça.
On va en reparler, en tout évident. Cas, avec cette
affaire. En tout cas, Xavier, c'est ce
Vata, il vivait en Australie. La dernière fois que je l'ai eu, il était en Australie. Je ne sais pas s'il est rentré en Europe maintenant, mais il était parti très, très
il
loin.
Il avait un maillot de l'OM.
Ce match, alors c'est pareil. Oui. Hein, c'est la 12e fois, en tout cas, que le Benfica rencontre une équipe européenne. Ils sont quand même, des fois, retrouvés face à face aussi. Est-ce que là... le Benfica vient de la Ligue des Champions. L'OM, bon, on a vu hier soir qu'après, ils ont failli vivre une remontada.
Ça a été très compliqué pour l'OM.
Ouais. Maintenant, l'euphorie marseillaise est en train de s'éteindre, l'arrivée gassée.
On a vu que l'état de grâce a duré 4 ou 5 matchs. Voilà. Maintenant, on est dans la réalité et on voit un club qui, quand même, a encore quelques trous d'air. Et hier à Villarreal, enfin c'est une très bonne équipe de Villarreal.
Ils sont crus déjà à l'abri.
Ils sont arrivés, ils ont cru qu'après ce 4-0 de l'aller, ils étaient déjà qualifiés. Alors c'était pas acquis
ils
du tout.
Ils ont été menés 3-0 jusqu'à la 86e. Hein.
Ouais, et il y a eu une occasion de 4-0 dans les arrêts de jeu avant qu'ils marquent ce but en contre. Le score de l'aller était très généreux pour l'OM qui a eu un maximum de réussite. Donc c'est un bon avertissement pour le prochain tour parce que contre Benfica, il faudra être beaucoup plus rigoureux. Benfica a connu un début de saison très compliqué. Il y a eu beaucoup de départs importants. Gonçalo Ramos qui est parti au PSG, le défenseur Alejandro Grimaldo qui est à Leverkusen, Vlaco Dimos le gardien qui est parti en Angleterre. Enzo Fernandez lui était parti.
Ils ont deux
temps
Parisiens.
Avant.
Ils ont oui. ils ont deux anciens Parisiens.
Absolument.
Angel Di Maria.
Je pense qu'ils vont être très motivés pour ce
match. Et Juan Bernat.
Et donc en fait, il a fallu à Roger Schmidt. J'étais commenté plusieurs fois cette saison. Il a fallu à Roger Schmidt. Plusieurs semaines pour trouver le bon système parce qu'il n'a pas de latéraux en fait. Donc il a fait un système défensif avec trois centraux qui se décalent et des milieux de terrain qui sont sur les côtés.
Quand vous êtes centraux comme ça, vous êtes à trois et que vous devez compenser les côtés si vous n'avez pas de vrais latéraux, c'est vraiment très fatigant.
Donc c'est un système de jeu très particulier mais très dépendant aussi de Angel Di Maria. Qui ne peut pas jouer tous les matchs à son meilleur, mais qui reste l'élément déclencheur de cette équipe.
Il joue quand il faut, j'ai l'impression.
On
s'en souvient.
Et c'est encore lui qui a été très souvent décisif cette saison.
Eric, les Parisiens seront donc motivés contre les Marseillais.
Bien sûr. J'ai vu passer des messages sur les réseaux sociaux où on voit des Parisiens forcément qui disent Angel Di Maria fera le travail, alors que c'est assez drôle.
Il a déjà fait face à la France.
Il avait déjà fait face à la France. Mais non, mais après, c'est une équipe pas facile à jouer. C'est une équipe qui perd pas en général contre les équipes françaises chez elle. Donc c'est très rare. Donc attention, ça va être compliqué.
Rémi,
honnêtement, quand j'ai vu Marseille à la peine devant Villarreal, parce que je n'ai jamais vu une telle domination, on dirait que l'OM était en train de jouer contre City plus Real.
Mais Rémi, est-ce que
25
là...
tirs concédés et là, j'ai vu par exemple...
Mais Aubameyang est rentré que très tard. Hein, parce que
il est entré directement à la deuxième mi-temps.
Oui,
et même quand il est entré à la deuxième mi-temps...
Il a une occasion de tuer le match, il
a raté. Et même quand il est entré à la deuxième mi-temps, Villarreal a quand même eu 7 occasions après. 7 occasions. C'est-à-dire que quand vous regardez nombre d'arrêts...
Est-ce qu'on peut se dire qu'au vu des autres adversaires, ils auraient pu écoper de Liverpool, ils auraient pu écoper du Milan AC, de la Roma et tout, est-ce que finalement Marseille s'en sort bien dans ce tirage au sort quand même?
Ils s'en sortent bien, mais avec ce Marseille, je ne pense pas que ce sera une affaire aussi qui sera bien en fin de compte. La seule chose qui est bien, c'est que le match retour va se jouer au Vélodrome. Mais pour l'instant, avec les manquements que j'ai vus dans ce Marseille-là, vraiment le manque de ce qu'on peut appeler l'agressivité, les trous béants qui sont revenus, et puis j'ai trouvé une équipe très fiévreuse, très poreuse. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont s'en prendre face à Benfica, que moi j'ai vu une équipe cohérente, même si vous dites qu'ils jouent avec trois centraux, mais quand même, ils sont partis s'imposer à l'extérieur. Aller battre Glasgow, c'est pas facile.
Non, c'est vrai.
Allez, deux petits messages. Un qui nous arrive d'RDC, Olivier Moumbéré. Allez l'OM, notre grand joueur de la RDC, Chancel Memba, bien sûr. Et puis Ariel Teddy, la petite séquence nostalgie, là ça lui a plu, la main de Vata. Demi-finale 90 et deux finales juste après. Vivement que l'OM retrouve ses grands jours.
Oui. Eric, vous vouliez ajouter quelque chose?
Ils sont en perte de vitesse quand même. C'est-à-dire que les prestations, même en Ligue 1, contre Nantes, c'était vraiment chaotique.
On a l'impression qu'il y a un essoufflement.
C'est pour ça que je dis attention. Aussi.
Petite chance pour l'OM, c'est que Benfica aura deux matchs, non pas un, mais deux matchs contre le Sporting dans la semaine précédente. Ils vont les rencontrer en demi-finale de la Coupe et en championnat. Donc, ils peuvent arriver contre l'OM un peu rincé.
Ça peut être, ouais.
Les autres affiches de cette Ligue Europa, nous avons donc le Milan AC, une affiche totalement italienne. Milan AC, AS Roma, Liverpool et Cop de l'Atalanta, autre club italien. Et puis, alors, le gros truc aussi, là, pour West Ham, le club anglais, ouais, c'est de se retrouver face Bayer Leverkusen, qui ne joue pas la compétition depuis longtemps, mais ils sont invaincus aujourd'hui encore. Ils ont eu du mal un peu au match retour là, mais ils restent invaincus en Europe.
Ils l'ont gagné la Ligue Europa du temps de la Coupe de l'UEFA.
Oui, oui.
C'était mais leur seul trophée d'ailleurs.
Il y a longtemps. Mais là, ça sera amusant en plus de voir comment se comporte l'équipe de Xabi Alonso. Et puis à noter qu'il y a une autre équipe française qui est encore sur la scène européenne, c'est la petite Coupe européenne. C'est la Ligue Europa Conférence. Et pour ce qui est, les Dogs ont hérité d'Aston Villa, entraîné par Unai Emery.
Ouais, et plus difficile pour
ça
eux.
Ça va être difficile, mais ils sont heureux d'être là eux aussi en quart de finale. Allez, on continue et on termine avec la session carton.
Carton jaune.
Un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire. Rien
à dire.
Et on commence tout de suite, évidemment, avec vous, chers auditeurs, internautes et téléspectateurs, avec vos cartons sélectionnés par Pierre Guérin.
Café Foot, bonjour. Moustapha Ndiamadi depuis le Tchad. Carton jaune à tous ceux qui voient déjà Manchester City en finale de cette Champions League et qui oublient que le Real de Madrid reste le meilleur club européen. Surtout que le Real de Madrid va sûrement récupérer Thibaut Courtois et Militao. Le Real va faire mal, très mal, à Manchester City cette année.
Arsenal, on est à quart de finale. Bonjour à De Foot International, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Georges, je vous appelle de Londres, d'Emirates. On est en quart de finale contre Porto et puis carton vert à toute l'équipe d'Arsenal.
Bonjour, Radio Foot, c'est Kennedy, Kenachim. Évidemment, en République démocratique du Congo, dans la province du Kassai-Oriental, je donne carton jaune à l'équipe des Villarreal qui n'a pas su remonter face à une équipe de Marseille qui n'était pas dans le match. Et voilà, ils ne méritent pas vraiment.
Bonjour Annie Gassini, bonjour Radio Foot International. Je suis Saouliba, sénégalais. Donc, j'adresse mon carton vert à Marco Reus. La légende du Borussia Dortmund qui délivre hier facilement son club, tranquille, zen, dernier instant, placer tranquillement le ballon, sans pression ni rien.
Bonjour Radio Foot International, c'est Abdulba depuis Conakry. Je donne un carton vert, bien vert, à l'UEFA pour nous avoir sorti un aller sans Barça, Paris Saint-Germain et Manchester City, Real de Madrid. J'espère que Pep Guardiola va démontrer à la face du monde qu'il est supérieur à Ancelotti et nous envoyer Ancelotti, Luka Modric et Toni Kroos à la retraite.
Bonjour Radio Foot International, c'est Rosine Huitondaille depuis la RDC. J'adresse un carton vert au Barça qui s'est qualifié pour le quart de finale de la Champions League après 4 ans. Bon café de sport à tous.
Bonjour mesdames et messieurs, moi c'est Ali Charabas en direct de la République Centrafricaine Bangui, la capitale. Cette semaine, nous avons deux cartons verts à vous proposer. Surtout l'équipe qui reste invaincue, dont tout le monde en parle, le Goliath du football, Bayern Leverkusen depuis, qui ne cesse que gagner des matchs et des matchs. Je demande l'avis aussi de mon petit frère Abdoulaye.
Notre deuxième carton vert qui va directement à trois clubs français qui s'est qualifié en Coupe d'Europe. Vraiment, je l'en crois et je le souhaite bonne chance.
Salut Madame Annie Gassini, salut la grande équipe de la Radio Foot International, c'est Gianni Mopila depuis Pont-Noir, Congo-Brazzaville. Mon carton il est vert et je le donne aux équipes lillois. Lille s'est qualifiée pour la première fois dans son histoire en quart de finale d'une Coupe européenne en Ligue Europa Conférence. Félicitations à l'équipe lillois et bonne suite.
Bonjour à tous les membres présents dans sa Café du Sport, auditeurs et auditrices. C'est Aliou Ndiaye depuis le Sénégal à Sédiou. Aujourd'hui, j'attribue un carton vert au club d'Al Hilal qui vient d'enregistrer 28 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Le record était détenu par River Plate.
Bonjour,
bonsoir à toute l'équipe de Café des Sports. C'est Roger à partir de la République démocratique du Congo, précisément en Colésie. J'ai voulu donner un carton vert à l'équipe de Tuissa Mazembe et surtout pour un match qui nous rappelle les années 2009 contre Petro Atlético. J'espère que Mazembe gardera toujours la suprématie.
Bonsoir Radio Foot International. Bon, moi c'est Oumar Sall depuis Dakar, Sénégal. Bon, mon carton aujourd'hui, il est vert. Vert adressé au coach de Red Star, Habib Bey. Son excellence, hein, pour son beau travail qu'il est en train de faire, son excellent travail qu'il est en train de faire depuis qu'il est à la tête de cette équipe.
Et on garde l'espoir d'avoir Habib Bey comme invité pour nous parler de ce qu'est être entraîneur d'une équipe de nationale comme le Red Star qui elle va conduire
qui va
peut-être oui,
oui
en Ligue 2. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant. Oui, hein. Hein. Oui, c'est ça. Merci à Rosine aussi hein, parce que c'est une des rares filles qui ose nous envoyer des cartons et qui est aussi régulière et surtout aussi férue de football. Allez Xavier, la couleur de votre carton.
Vert pour les rouges du stade brestois. Oui, Brest, au bout de la terre, Finistère, là-bas, avec son petit stade qui n'a jamais été refait. Eh bien, Brest est deuxième du championnat. Fin de série le week-end dernier à Lens. Après 14 matchs en défaite, ils ont perdu. Ils méritaient pas de perdre, mais bon, ils ont perdu. C'est pas grave. Ils restent deuxième du championnat avec de belles perspectives d'être enfin européens. Ce serait la première fois de l'histoire du stade brestois qu'ils arriveraient sur la scène européenne. Faut Eric. Pas lâcher.
Ouais, alors moi j'ai un carton vert pour Luis Enrique pour sa gestion de l'effectif.
Luis Enrique, entraîneur du...
Entraîneur du Paris Saint-Germain, évidemment. Ah, j'ai fait une bise à David Finzel, évidemment, en pensant au traitement que reçoit Mbappé. Évidemment, je pense qu'il est dans tous ses états.
Mais Luis Enrique vous plaît?
Ouais, non, ça me plaît, parce qu'en fait, on n'a pas eu de coach qui réellement coachait normalement une équipe à Paris. On a eu des coachs influencés par les décisionnaires.
Donc vous n'avez pas eu Ancelotti?
Aujourd'hui, ouais, mais c'était une autre époque. Ancelotti, c'était vraiment le début de l'époque. Et là, aujourd'hui, on n'a eu que des entraîneurs qui se laissaient influencer. Là, on sait qu'il prend ses décisions, qu'il fait ce qu'il veut. Et moi, j'aime ça. Et ça me permet de me dire que bah, j'ai beaucoup d'espoir pour le Paris Saint-Germain derrière.
Rémi?
Carton vert à Hugo Brousse. Parce que depuis un certain temps, ça fait de la publicité d'Hugo Brousse comme étant devenu le plus grand sélectionneur de tous les temps, qu'on devrait faire revenir au niveau des Lions Indomptables, oubliant que quand il était là, même l'argent pour manger à l'hôtel avec des Lions, il n'y avait pas les ballons et tout. Hugo Brousse a décidé que lui, il reste en Afrique du Sud, car un proverbe africain dit... Une flèche lancée ne revient plus.
Frédéric, moi il est rouge, carton rouge pour la Fédération Française de Foot et son président Philippe Diallo. Quand il est arrivé il y a un peu plus d'un an pour remplacer Noël Le Graët, il nous avait promis que dès que ce serait possible, les Bleus, l'équipe de France, voyageraient en train. Parce qu'il faut vivre avec son temps, l'environnement, l'écologie, on n'est pas obligé de prendre l'avion à chaque fois. Là, il y a deux matchs qui arrivent pour l'équipe de France. Un à Lyon face à l'Allemagne, un à Marseille face au Chili.
C'est long.
Eh bien, la SNCF leur a proposé de prendre le train. Ils ont dit, ah non, les conditions, la récupération des joueurs, c'est compliqué, vous comprenez. Donc, jet privé, comme d'habitude.
Ouais, ben voilà, bon carton rouge. Carton rouge aussi de Radio Foot International au Real Madrid. N'écoutez pas Rémi. Carton rouge à cette Casablanca. À cette Maison Blanche qui refuse encore une fois de laisser partir ses internationaux pour disputer les Jeux Olympiques. Et notamment, alors c'est toutes les fédérations qui ont reçu un message, mais évidemment la Fédération Française, donc Camavinga et Tchouaméni ne pourront pas, ils sont punis. Alors Kiki, est-ce qu'il sera aussi puni hein? Vous voyez, on va bientôt le mettre sur la photo du Real Madrid. C'est la fin de ce Café des Sports, les amis. C'est déjà le week-end. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à ceux qui nous suivent très loin. Et à la semaine prochaine.